Hi, I'm David Crosby, and when Rolling Stone asked me to do an advice column, I thought they were crazy. Who would ask me for advice? They said that's why it's funny. So here we go again.
Et j'espère que t'as pas le vertige.
A feeling of dizziness.
Vertigo.
A swimming in the head.
He was looking for a living to be proud of.
21h, 22h, Vertigo, présenté par Lucien Ducasse.
People get old and die, and that's how it works, and I'm gonna. But in the meantime, I'm gonna have myself a bunch of fun.
It's not how much time you got, because we really don't know. I could have 2 weeks, I could have 10 years. It's what you do with the time that you do have. And so I'm trying to really spend it well. Whatever, each day that I get, I'm very grateful for, and I try to do it making music, because I think the world needs music. I think music is a lifting force, and I think that I can make good music because I love doing it. I know that I'm supposed to, you know, quietly shuffle off into the distance, but I'm not gonna.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute d'un nouveau numéro un peu spécial de notre émission Vertigo, un vertige musical qui aujourd'hui sera intégralement consacré à la musique de David Van Cortlandt Crosby. On avait déjà réalisé un numéro spécial consacré à Christine McVie suite à son décès il y a quelque temps, et je n'avais pas très envie de renouveler l'expérience pour ne pas donner des airs de nécrologie à notre programmation. Mais le 18 janvier 2023, lorsque ce fut au tour de David Crosby de nous quitter, je n'ai pas eu d'autre choix que de bousculer une nouvelle fois la préparation de cette émission. Il est tout simplement impossible de passer à côté de l'immense influence de cet artiste sur l'histoire de la musique, et je pèse mes mots. Tout cela commencera d'ailleurs très tôt dans la carrière de David Crosby, et nous sommes seulement au début des années 1960 quand il s'associe aux musiciens Roger McGuinn, Gene et Michael Clark, puis Chris Hillman. Ensemble, ils forment d'abord Jet Set et, comme beaucoup d'autres musiciens à l'époque, reprennent allègrement le style, le look et la musique des Beatles jusqu'à acheter le même équipement que les Fab Four. Seulement dans tout ça, il y a le petit truc en plus qui fait toute la différence, un amour inconditionnel pour le répertoire folk traditionnel américain, le tout porté par des harmonies uniques que David Crosby va construire avec ses collègues musiciens. Mais c'est quand ils auront la possibilité d'entendre en avant-première un nouveau single de Bob Dylan, avant sa sortie, Mr. Tambourine Man, que les choses vont prendre une toute autre tournure. Dylan vient à peine de révolutionner la folk avec ses textes qui donnent un nouveau souffle à une véritable institution, mais les Byrds reprennent sa chanson avec une Rickenbacker à 12 cordes, leurs fameuses harmonies et le son des Beatles, justement. Cette fois, c'est Dylan qui est soufflé. Il découvre qu'on peut danser sur ses chansons et tout ça commence à plaire un peu à tout le monde dans le milieu, même à un certain Miles Davis qui forcera pour que le groupe puisse signer chez Columbia avec en prime un nouveau nom, The Byrds. C'est peut-être difficile à imaginer aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas seulement un tube ici, plutôt un véritable séisme dans l'histoire de la musique pour tout ce que ce nouveau son peut représenter et ce qu'il permettra de créer derrière. La folk devient électrique et cette tentative réussie des Byrds donnera naissance à la deuxième révolution dylanesque, celle de virer électrique à son tour en 65 et de se mettre ponctuellement à dos tous les grands pontes de la musique folk, à commencer par l'un de ses plus grands maîtres, Pete Seeger, qui devra bien finir par renoncer et se rendre à l'évidence que quelque chose d'immense est en train de se produire et que, pardon, mais qu'est-ce que ça marche musicalement, même en reprenant un de ses titres les plus célèbres, Turn, Turn, Turn.
To heaven.
Les Byrds et ce chef-d'œuvre tout en symbole qu'est leur reprise de Turn, Turn, Turn de Pete Seeger, une chanson qui hurle un besoin de changement et qui mettra son auteur bien en face de ses propres contradictions. Car comme je le disais, quelque chose de grand est en train de se produire et il faudra très peu de temps pour que les Byrds deviennent le groupe le plus populaire au monde, juste derrière leurs idoles, les Beatles. Difficile d'imaginer qu'ils peuvent aller plus loin à partir de là, et pourtant, ils vont à leur tour être une source d'inspiration pour leurs voisins britanniques, notamment grâce au travail de David Crosby au sein du groupe, à la fois dans l'écriture et la musique. Une musique qui vire doucement vers le psychédélique et des sonorités indiennes, et qui va guider une société entière dans ce qui sera la fin des années 1960. Car au tout début de l'année 66, ce sont trois mots qui vont résumer à eux seuls le nouveau son d'une génération, 8 Miles High.
8 miles high, and when you touch down.
Le titre est parfaitement imprégné de la recette originale des Byrds, le tout mélangé au mixeur avec le sitar de Ravi Shankar ou encore le jazz de John Coltrane. Cette nouvelle explosion musicale apparaît dans le bien nommé Fifth Dimension, un album dans lequel on peut découvrir une composition originale écrite et interprétée par David Crosby et qui semble tout résumer en une question: What's happening?
I don't know who you think you are. I don't know. What you're doing here? I don't know what's going on here. I don't know supposed to be. I don't have the vaguest notion whose it is or what it's all for.
mostly, as you can see.
What's Happening par David Crosby au sein des Byrds, titre que l'on peut traduire par « Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» et c'est bien la question que l'on peut se poser, tant cette musique semble particulièrement en avance sur son temps et elle est pourtant parfaitement à sa place. Les Byrds sont bannis des radios avec 8 Miles High et pourtant ils n'ont jamais eu autant de succès et leur influence sur le son de l'époque est déjà indiscutable. À peine un an plus tard, ils sortent Younger Than Yesterday, l'album de l'équilibre qui les sortira un petit peu de la pop adorée par les jeunes et les mettra davantage en valeur auprès d'oreilles plus difficiles qui ne pourront que constater le talent incroyable qui se cache derrière des titres comme Everybody's Been Burned, encore une fois signé David Crosby.
Everybody has been burned before. Everybody knows the pain. Anyone in this place can tell you to your face why you shouldn't try to love someone. Everybody knows it never works. Everybody knows, and me, I know that door that shuts just before you get to the dream.
Que se passe-t-il ? C'est la question que l'on se posait tout à l'heure au sujet de cette transformation impressionnante du paysage musical, mais on pourrait tout aussi bien la poser en se tournant vers les coulisses et en s'adressant au principal concerné, David Crosby. Force est de constater que personne n'a l'air de vraiment s'y intéresser à l'époque, à savoir ce qu'il se passe s'il n'y a pas, au fond, un petit problème chez lui. Car au milieu de cette véritable tornade musicale qui secoue la fin des années 60, David Crosby est devenu ce hippie moustachu qui fait rire tout le monde, qui traîne avec l'intégralité de ceux qui font la musique de l'époque, de Dylan aux Beatles, en passant par Mama Cass, les Jefferson's Airplane et bien d'autres. La fête, c'est lui. Les drogues en tout genre, c'est lui. Les excès qui vont avec, c'est lui. On raconte même qu'il servira d'inspiration pour le personnage de Dennis Hopper dans Easy Rider, sorti en 69. Ses interventions publiques plus ou moins conscientes commencent à peser sur ses collègues des Byrds, la plus connue étant peut-être ses allusions complotistes au sujet de l'assassinat de JFK devant les spectateurs du Monterey Pop Festival. Mélanger tout ça à un ego surdimensionné et une volonté irrépressible de contrôler la création musicale, et vous avez tous les ingrédients pour le virer du groupe. David Crosby se retrouve seul au fond du seau, mais trouve l'occasion de repérer la jeune Joni Mitchell, au passage, dont il va lancer la carrière en produisant ses premiers albums, celle qui, à son tour, saura révolutionner tout un pan de la musique. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant ici, c'est que Mitchell vient du Canada et qu'elle lui a présenté un ami, lui aussi canadien, et qui répond au nom de Neil Young. Celui-ci a notamment participé au succès d'un autre groupe incroyable, les Buffalo Springfield, et au sein desquels on retrouve un guitariste qui s'appelle Stephen Stills. Il n'y a plus qu'à réunir tout ce beau monde à l'occasion des nombreuses soirées chez Mama Cass, des Mamas and the Papas, à Laurel Canyon, le rendez-vous de tous les musiciens à l'époque, et on rencontre alors un Anglais répondant au nom de Graham Nash. Il faudra alors très peu de temps pour que tout ce beau monde fasse de la musique ensemble, et boum! Crosby, Stills and Nash sortent leur premier album éponyme au début de l'été 1969 et ils seront rapidement rejoints par Neil Young dès leur deuxième passage sur scène seulement, en festival, une broutille, l'incontournable Woodstock d'août 1969. Et Crosby, Stills and Nash, CSN, c'est ça.
Leaving, you don't need us. a sister, then by the hand, lead her away from this foreign land, far away, where we might laugh again. We are leaving, you don't need. South on my shoulder, I guess I'll set a course and go.
Wooden Ships par CSN et visiblement participer à une révolution musicale au sein des Byrds. Ça n'a pas suffi à David Crosby, qui se retrouve maintenant derrière la production d'un premier album qui va ni plus ni moins définir le paysage musical californien des années 70. Le California Sound, qui donnera naissance aux productions des Eagles, des Doobie Brothers, Jackson Browne, Fleetwood Mac et tant d'autres, il vient essentiellement de là. Un son de guitare très identifié, un zeste de psychédélisme, les racines blues, folk et le jazz sont bien présents, et les constructions harmoniques, en particulier les harmonies vocales portées par Crosby, et qui n'ont jamais mieux sonné qu'avec les voix de Stills et Nash, bref, tout est là pour changer définitivement le futur de la musique. On n'a plus qu'à ajouter Neil Young dans un nouvel album, et tout ça est tellement dingue qu'on n'est même plus surpris. La sauce prend parfaitement au point qu'on a l'impression que c'était écrit, ou même que l'histoire se répète, comme une légère sensation de déjà-vu.
Another time around the wheel, I would probably know just how to deal
with all of you. And I feel like I've been here before.
Thank you.
Déjà vu par Crosby, Stills, Nash & Young, extrait de l'album du même nom sorti le 11 mars 1970, aux côtés d'autres chefs-d'œuvre tels que Teach Your Children, Our House et la reprise de Woodstock, ce qui en fait une autre véritable référence, surtout auprès de musiciens en général. Et lors de l'enregistrement de Déjà vu, au milieu d'autant de musique, difficile d'imaginer que David Crosby est en train de sombrer. Le 30 septembre 1969, sa compagne Christine Hinton décède subitement après un accident de voiture et Crosby ne s'en remettra jamais.
Nash a dit qu'après être allé identifier le corps de Christine, vous n'avez plus jamais été le même.
Il a raison, c'est vrai.
On dirait qu'elle vous allégeait d'un poids. Pourquoi elle ?
Je l'adorais. Christine avait 21 ans. Sa vie ne faisait que commencer. Il y a un passage dans le roman Dune qui s'appelle « Litanie contre la peur », qui commence par « La peur tue l'esprit ». Christine me l'avait très joliment recopié. Je l'ai fait encadrer.
Il s'isole sur son bateau pendant de longs mois et de sa souffrance naîtra ce qui, pour moi, est l'un des plus grands albums de tous les temps, « If I could only remember my name ».
J'ai passé un long moment à pleurer, car c'est tout ce que je savais faire. On n'est pas du tout préparé à la mort. On ne parle pas. Personne ne parle de la mort. Si vous êtes comme moi, vous vous torturez en pensant « j'aurais dû dire ceci, faire cela ». C'est tout votre monde qui est chamboulé.
Réfugié en studio, il joue sans s'arrêter et s'accompagne de tout un tas de musiciens tous plus incroyables les uns que les autres, notamment Jerry Garcia des Grateful Dead, mais aussi Neil Young, avec qui il crée ce titre introductif comme un mantra répété à l'infini « Music is love ». Vous êtes toujours à l'écoute de Vertigo sur Radio Campus Bordeaux 88.1 FM et ce soir notre vertige musical d'une heure rend hommage à l'artiste David Crosby qui nous a quittés récemment à l'âge de 81 ans. Vous nous écoutez peut-être aussi en podcast. D'ailleurs, pour réécouter toutes nos émissions, il vous suffit de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les pages Facebook, Instagram et Twitter de Vertigo. If I Could Only Remember My Name est un chef-d'œuvre qui deviendra culte avec les années, comme si lui aussi avait été un petit peu en avance sur son temps. Quelques jours après la mort de Croz, Jacob Collier s'est rappelé de ce qu'il décrira comme un grand sorcier de la musique, comme Merlin avec son chapeau plein de mystères, et je trouve que c'est totalement approprié, tant cet artiste a pu naviguer, hors du temps, avec une pleine conscience du meilleur chemin pour la musique. Il semble aussi apparaître comme par magie, en studio, comme un petit lutin derrière les productions d'autres artistes, Joni Mitchell, Judy Seal, James Taylor, Art Garfunkel, Carole King, Elton John, Phil Collins ou même Stevie Nicks, et j'en passe, il est absolument partout. En 1977, on le retrouve sur son bateau avec Stephen Stills et Graham Nash pour un nouveau disque à trois, CSN, qui sera d'ailleurs le plus vendu de leur carrière. David écrit, compose et interprète les sublimes In My Dreams et Anything at All.
Anything you want to know, just ask me. I'm the world's most opinionated man. I'll give you an answer if I can catch one. Passing through, it feels right for you. Anything you want to know, just ask me. It's worth every cent it costs. Special deal. Perfectly clear. You see, just beneath the surface of the mud, there's more mud here. Surprise. Is there anything you want to know on any subject at all? I've got time for one more question here before I fall. Is there anything at all? Dancers gliding around, seems as if their feet don't hardly touch the ground. Look at them smiling like they knew one another, and they never would come down. Turn around and hold. To see your face alone, I'm hoping that someone holds. I'd like to meet you. Who do you see? Introduce yourself.
to whichever of me is nearby.
Close behind your eyes, laughing at me, and I'm stuck with no instruction that I can see to steer by.
Stick around, it's tricky ground.
I'd like to see your face alone.
I'm hoping someone home.
Three people fading in and out like a radio station. I'm thinking about, but I can't hear. Who gets breakfast? Who gets the lunch? Who gets to be the boss of this bunch? Who will steer? Face alone. I'm hoping that someone home. Dream. Do you dream?
My Dreams par David Crosby, qui ne lâche pas la musique en cette fin des années 70, et sa participation aux tournées de CSN aussi, qui se prolongeront jusqu'au milieu des années 80 avec d'autres albums, mais l'artiste semble disparaître petit à petit. Ses amis musiciens font tous les efforts possibles pour le sortir de l'addiction à la cocaïne et l'héroïne, mais rien n'y fait. Même sa nouvelle compagne, Jan Dance, s'enfonce dans les mêmes travers. Il devient plus que jamais insupportable pour son entourage et finit plusieurs fois en prison jusqu'à un mandat d'arrêt national du FBI.
L'addiction m'a envahi comme le feu s'empare d'un bâtiment et j'ai complètement déraillé. C'est une spirale étrange. Comme tu es furieux contre toi-même d'être un con, tu te drogues encore plus. Et ça te rend encore plus con et encore plus furieux contre toi-même.
Mais il y a bien une phase d'euphorie qui donne envie de toujours recommencer.
Ça ne rend pas euphorique, ça anesthésie. C'est pour ça que les gens se défoncent aux drogues dures. Ils ne veulent pas être là. Ils veulent supprimer l'ici et maintenant et vivre à l'intérieur de leurs rêves ou de leurs cauchemars.
Lorsqu'il finit par se rendre, son dernier départ derrière les barreaux servira également de cure de désintox, à la dure, quasiment sans aucune médication. Après sa sortie, lui et celle qui deviendra sa femme jusqu'à ses derniers jours se sortent définitivement de la drogue et la musique peut reprendre peu à peu avec CSN ainsi qu'avec Graham Nash avec qui il forme aussi un duo depuis les années 70. Cette amitié toute particulière prendra d'ailleurs fin dans les années 2010, des querelles personnelles qui resteront irrésolues et qui empêcheront toute nouvelle collaboration musicale, la dernière en date étant leur album de 2004, sobrement intitulé Crosby & Nash, et ce très joli titre écrit par le premier fils de Crosby, James Raymond, Lay Me Down.
Driving out through the windmills, and some of them were still. Sometimes it's hard to catch the wind and bend it to your will. Even though it's hard to know just how the story ends, the road is long and it takes its time. On that you can depend. Lay me down in the river and wash this place away. Break me down like sand from a stone. Maybe I'll be whole again one day. Lay me down. Lay me down, maybe I'll be whole again. Lay me down. Lay me down, maybe I'll be whole again. Somewhere between heaven and hell, a soul knows where it's been. I want to feel my spirit lifted up and catch my breath again. Lay me down in the river and wash this place away. Break me down like sand from a stone. Maybe I'll be whole again one day. Lay me down. Lay me down. Maybe I'll be whole again. Lay me down. Lay me down. Maybe I'll be whole again. Lay me down, lay me down, maybe I'll be whole again one day.
Lay Me Down, écrit par le fils de David Crosby et ici interprété par son père et Graham Nash. Raymond porte le nom de ses parents adoptifs, chez qui il avait été placé vite après sa naissance en 1962, alors que David Crosby avait à peine 21 ans. Les deux se retrouveront plusieurs décennies plus tard et feront de la musique ensemble à une époque où Crosby semble renaître et vivre une nouvelle vie. Après avoir atteint le point le plus bas de sa dépression et de ses addictions, le voilà comme remis à zéro, avec la culpabilité de rester en vie là où tant de ses amis musiciens n'ont pas réussi à tenir.
Regardez tous ces gens qui sont morts. Janis Joplin, Cass Elliot, Jimi Hendrix. C'était tous des amis à moi. Et ils sont tous morts de la même chose, de la même façon. Pourquoi pas moi? Je prenais la même drogue. J'ai fait des overdoses. On a dû me réanimer plusieurs fois. Comment se fait-il que je ne sois pas mort? À un moment, la drogue est devenue plus importante que n'importe qui et n'importe quoi d'autre. Même la musique. Je n'assurais plus du tout dans le groupe quand je suis devenu un junkie. J'ai sombré devant eux. Et le groupe est parti en couille parce que je n'étais pas foutu d'assumer ma part du boulot.
Il aura aussi des séquelles physiques et une santé qui laisse croire au miracle quand on sait qu'il tiendra jusqu'à ses 81 ans après les dégâts d'une hépatite, d'une transplantation du foie, d'un diabète de type 2 et de plusieurs infarctus. Pourtant, en 2014, il repart en solo et entame la dernière partie de sa carrière, en studio comme sur beaucoup de scènes à travers tout le pays, et avec de nouveau James Raymond à l'écriture et aux commandes de Cross, par exemple, dans lequel on profite notamment de la guitare de Mark Knopfler sur What's Broken. Après Cross et Lighthouse en 2016, Crosby enchaîne avec le très jazzy et génial Sky Trails en 2017, encore accompagné de James Raymond et de jeunes musiciens et musiciennes tels que Becca Stevens. Cross ironise sur le fait que les jeunes d'aujourd'hui n'écouteront pas ses albums, alors que pour moi ils sonnent parfois mille fois plus jeunes que tout le monde, à mon avis, et c'est là toute la sorcellerie de ce type. Il reste le petit jeune capable de produire une merveille comme She's Got To Be Somewhere. Pack up the Eldorado. 2019, au Sundance Film Festival, on pouvait voir un documentaire incroyable produit par Cameron Crowe, qui a notamment travaillé pour le magazine Rolling Stone. En France, il est souvent disponible sur Arte, et je vous le conseille, car il est pour moi absolument immanquable si on veut approcher ne serait-ce qu'un tout petit peu la puissance musicale et le rôle immense de David Crosby dans l'histoire de la musique. Dans Remember My Name, il dira qu'on est parvenu à retrouver les os là où ils avaient été enterrés. Ce sont d'ailleurs des extraits de ce film que vous avez pu entendre pendant l'émission, une analyse puissante et intime de sa vie, là où la musique s'est mélangée avec tout le reste. Et si la vie s'est brutalement arrêtée le 18 janvier 2023, la musique résonnera à l'infini, aussi bien les harmonies et la folk des années 2020 que le déjà-vu des années 70, jusque dans l'électricité du milieu des années 60 avec les Byrds. En 2018, dans Here If You Listen, il y a un titre qui résume bien tout ça, à mon avis. Chanté avec Michael League, Michelle Willis et Becca Stevens, trois jeunes, trois futurs CSN à leur manière, qui réussissent à recréer cette ambiance si particulière avec David Crosby, celle de l'année 1967, là où tout était encore en train de se transformer musicalement. C'est sur ce dernier titre que prendra fin cet hommage spécial. Merci de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Vertigo et j'espère surtout vous avoir donné envie de vous replonger dans la musique incroyable de Monsieur David Crosby que je ne saurais jamais remercier suffisamment pour tout ce qu'il nous a offert. Voici 1967, à bientôt. Da-da-ba-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da.